Chapitre 26. Le grand cirque des deux mondes. Au bout d'une heure environ, Mukunji revint. Il était tout joyeux, il gambadait et chantait. Et quand il fut près de moi, il m'embrassa la trompe et il me parla. « Ah, mon bon compagnon, mon brave ami, comme le sage a raison de dire, pour qui a du talent, il n'y a pas de terre étrangère. Pour qui est content de peu, il n'y a pas de chagrin. Pour qui a de la fermeté, il n'y a pas d'accident. Pour qui a de la résolution, il n'y a rien d'impossible. Comme elle est juste, cette sentence, et non moins que celle-ci, la vie des êtres est instable, comme le reflet de la lune dans l'eau. Puisqu'on sait qu'elle est telle, il faut pratiquer la vertu. Oui, oui, il faut pratiquer la vertu, et c'est parce que je la pratique, parce que j'ai supporté gaiement et résolument le malheur, qu'aujourd'hui les dieux m'envoient un sort moins mauvais. » Il s'interrompait, dansait autour de moi, battait des mains, et il reprenait. « Oui, oui, mon bon, la vie est instable comme le reflet de la lune dans l'eau. J'aurais raillé celui qui, dans ma jeunesse, quand j'étudiais à Lahore les livres des sages, m'aurait dit qu'un jour je déchargerais des navires sur le port de Calcutta. Et hier, j'aurais ri de qui m'aurait affirmé que ce soir, j'appartiendrais à la troupe de M. John Hardwick, directeur unique du grand cirque des deux mondes. Et tout cela, pourtant, est arrivé. » Il m'embrassait encore, et il parlait toujours. « Oh, mon ami, mon sauveur, toi qui es peut-être Ganesa lui-même, oui, désormais, nous aurons un abri sûr. Nous ne serons plus exposés à coucher par les nuits pluvieuses dans les fossés des routes, et nous ne craindrons plus la faim. Nous vivrons heureux, mon ami, hébergés et payés par le bon monsieur John Hardwick, et peut-être avons-nous trouvé la fortune. » Et il racontait son entrevue avec le directeur du cirque. J'arrive à l'hôtel Victoria, je demande monsieur John Hardwick, et on m'introduit auprès d'un homme jeune encore, mais grave, d'une gravité telle que j'avais peur, moi qui n'ai jamais tremblé. Car ainsi que l'a dit le sage, dans la forêt, dans les bois, aux chemins ardus, dans les rues de misère, parmi les troubles, sous la menace des épées, les hommes vertueux ne connaissent pas la peur. M. Hardwick avait auprès de lui ce jeune homme qui m'avait parlé l'autre jour, et qu'il appelait M. Oldham. En me voyant, M. Oldham dit à M. Hardwick, « Ah, c'est cet homme dont je vous ai parlé, et qui possède cet éléphant si intelligent. » Et voilà qu'il fait ton éloge, racontant je ne sais quelle histoire où je ne comprenais pas grand-chose, où sans cesse il était question d'un anneau de fer avec lequel il t'avait vu jongler. Bref, M. Hardwick me demanda si je veux te vendre. « Moi ? Vendre mon ami ? M'écriai-je. Vendre un éléphant qui m'a été envoyé par les dieux, et qui peut-être est un dieu. Jamais, jamais !»« C'est dommage, reprit M. Oldham, cet éléphant eût fort bien complété notre troupe. »« Tant pis, dit M. Hardwick. » Et j'allais m'en aller quand M. Oldham me retint d'un signe et s'adressant à M. Hardwick. « Mais, monsieur, il y aurait peut-être un moyen de tout arranger, si vous engagiez à la fois l'éléphant et le maître. »« Laissez-moi réfléchir 5 minutes, » répondit M. Hardwick. « Oh, M. Hardwick est un sage et qui sait vite prendre des décisions. » Les 5 minutes écoulées, il me dit, « Voulez-vous accepter de faire avec votre éléphant partie de notre troupe ?» Moi, je n'avais pas besoin de réfléchir, ne fût-ce qu'une minute pour accepter. Je ne savais pas bien, à vrai dire, à quel métier M. John Hardwick nous emploierait, mais il semblait un homme riche, qui nous assurait au moins la vie, et j'ai dit oui, et je ne crois pas avoir lieu de m'en repentir. Et de nouveau, chantant et riant, Mukunji gambadait autour de moi. Puis, redevenant sérieux, « M. Oldham, avec qui me laissa M. Hardwick, m'a appris quel est le métier de celui-ci. Il montre, en somme, des animaux savants, et ses compagnons font des tours de force et d'adresse. » Maintenant donc, ô mon ami, au lieu de te fatiguer en de durs travaux, tu vas par ton habileté divertir les curieux, et nous ne manquerons plus de rien. Je dois l'avouer, je ne me sentais pas aussi heureux que mon maître. Autant j'aurais eu plaisir à amuser des êtres chers, comme Saphir du Ciel et Parvati, autant je me sentais peu porté à réjouir des indifférents. Ma vie présente était certes bien dure, mais du moins je pouvais être triste, tandis qu'à l'avenir, je le comprenais, il me faudrait paraître gai à des heures indiquées d'avance, et même si, alors, les plus amères pensées me torturaient. Pourtant, je ne voulus pas troubler le bonheur de Mukunji, et je répondis à sa joie par des signes amicaux. Bientôt, nous quittâmes le port, et nous allâmes rejoindre M. John Hardwick. Et c'est ainsi que j'entrai dans la troupe de M. John Hardwick, directeur du grand cirque des deux mondes. Le soir même, M. John Hardwick nous présenta à sa troupe. Il avait loué un terrain vague, où il avait dressé son cirque. C'était une grande bâtisse en bois et en fer, qu'on pouvait monter et démonter très rapidement, et qui, construite, était d'aspect élégant et confortable. On n'eût jamais dit que quelques heures suffiraient pour en désajuster tous les morceaux et les charger sur des chariots. Elle se composait de deux parties contiguës, le cirque proprement dit, la piste et les gradins pour les spectateurs, et les écuries, avec quelques chambres où étaient logés les palefreniers et les personnages secondaires de la troupe. Les personnages importants logeaient à l'hôtel, comme le directeur. Quand nous fûmes arrivés au cirque, M. Hardwick désigna d'abord la place que j'occuperais à l'écurie, et la chambre que Mukunji, qui ne voulait abandonner à personne la tâche de me soigner, partagerait avec un des palefreniers. Puis nous entrâmes sur la piste, où la troupe était réunie. C'étaient bien les mêmes gens que j'avais vus débarquer 3 jours auparavant. Le directeur parla ainsi. « Messieurs et mesdames, je vous présente Monsieur Mukunji, le propriétaire de cet éléphant. L'éléphant est, m'a dit mon spirituel ami, Monsieur Oldham, une bête remarquable, à qui il a vu exécuter un tour difficile et intéressant, sans que personne l'ait dressé. C'est un sujet qui fera honneur à notre troupe, déjà si bien composée. Accueillez donc avec amitié l'éléphant et le maître. » Très correctement, les membres de la troupe vinrent, chacun à son tour, saluer Mukunji et me caresser. Et au fur et à mesure, M. Hardwick, s'adressant à Mukunji, les nommait par leur nom et indiquait leur emploi. « Monsieur Oldham, monsieur, notre premier clown et régisseur, que vous connaissez déjà. Monsieur Edward Greathorse, notre premier écuyer, et Mrs. Greathorse, une des plus distinguées équilibristes qui soit, et leurs deux enfants, le jeune William Greathorse, qui n'a pas son pareil pour crever un cerceau en papier et retomber d'aplomb sur un cheval, et la charmante Miss Annie Greathorse, qu'a séduite l'étude du trapèze et qui connaît déjà tous les secrets de cet art difficile. Monsieur et Madame Greathorse ne me plurent qu'à demi. Monsieur Greathorse était un homme très grand, très sec, qui semblait âgé d'une 40aine d'années. On sentait, à le voir, qu'il était habitué à parler à des chevaux et à leur parler rudement. Madame Greathorse avait à peu près le même âge que son mari et était aussi grande que lui, mais autant il était maigre, autant elle était grosse. Son visage vulgaire avait un air de dureté, et son nez était singulièrement aplati. J'en compris plus tard la raison. L'exercice favori de Madame Greathorse était de tenir en équilibre sur son nez un bâton avec au bout une grosse boule de fer. Le jeune Monsieur Greathorse, à qui l'on pouvait donner 17 ou 18 ans, me déplut tout à fait, tant il avait l'air sournois. Il ne devait se plaire qu'à jouer à ses camarades les plus méchants tours. Seule de cette famille, Miss Annie m'inspira quelque sympathie. C'était une jeune fille, presque une enfant encore, de 15 ans environ, d'aspect assez chétif, et à qui le trapèze avait outre mesure développé les bras. On devinait qu'elle se fatiguait trop et qu'elle souffrait. Sa figure était agréable, douce et pâle, et elle avait de jolis cheveux blonds. Après les Greathorse, vinrent 6 personnages qui se ressemblaient tous, bien que le plus âgé parut 35 ans et le plus jeune 9 ou 10. Ils souriaient tous du même sourire qui semblait figé sur leurs lèvres. « Les frères Smith, monsieur, » dit M. Hardwick, « de bien recommandables gentlemen. Tant qu'on ne les a pas vus faire la pyramide humaine, on ne sait pas ce qu'est l'acrobatie. » Les frères Smith saluèrent, souriant toujours. Puis ce fut une jeune femme fort élégante et gracieuse. « Miss Morley, monsieur, vous l'admirerez dans ses exercices de haute école, notre savante amazone, monsieur. » Après Miss Morley, s'approchèrent 3 hommes et 3 femmes, ni grands ni petits, ni gras ni maigres, ni beaux ni laids, mais très corrects. « Nos écuyers et écuyères, monsieur, monsieur Crampton et Mrs. Crampton, monsieur Hampton et Mrs. Hampton, monsieur Mapton et Mrs. Mapton. » Successivement, ensuite, monsieur John Hardwick présenta. « Monsieur Nilo Bong, monsieur, le fameux gymnaste tonkinois. Les sœurs Ulverstone, Miss Jane Ulverstone et Miss Lucy Ulverstone, monsieur, qui chaque soir éblouissent les spectateurs par leur adresse à la barre fixe, monsieur. Monsieur Pound, monsieur, pour qui soulever 200 livres est un jeu, et Mrs. Pound, son épouse, la fée du revolver et de la carabine, monsieur. À 100 pas, elle ne manquerait pas une noisette, monsieur. Monsieur Tom Liverpool, le lutteur admirable que nul n'a pu renverser, monsieur, et qui terrasserait des géants, monsieur. Miss Alice Jewell, monsieur, qui sur un fil de fer traverserait le Gange là où il est le plus large. » Tous ces personnages étaient assez insignifiants. Monsieur Nilo Bong avait beau se dire tonkinois et avoir les yeux un peu bridés, son teint prouvait qu'il était européen. Monsieur Pound et Monsieur Tom Liverpool étaient 2 hommes énormes, d'aspect peu intelligent. Mrs. Pound était une femme toute petite, toute maigre, l'air à ses revêches. Miss Jane et Lucy Ulverstone et Miss Alice Jewell étaient de correctes jeunes filles, assez jolies, et qui saluaient aimablement. Il ne restait plus à présenter de la troupe que 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes. Les 2 hommes se ressemblaient fort, et tous deux rappelaient M. Oldham, mais les traits qui, chez M. Oldham, n'étaient que comiques, s'accentuaient chez eux jusqu'au grotesque, et le grotesque de leur personne frappait d'autant plus qu'ils affectaient d'être graves. Quand vint leur tour, « Monsieur Trick et Monsieur Truck, monsieur, » dit Monsieur Hardwick. « Je pourrais les affirmer les plus spirituels clowns qu'il y ait au monde, si eux-mêmes ne s'inclinaient devant la supériorité de Monsieur Oldham. Ils sont les enfants chéris de la gaieté. » Messieurs Trick et Truck saluèrent Mukunji, et une jeune femme très belle, qui avait de grands yeux noirs et d'épais cheveux dorés, s'approcha. « Miss Sarah Skipton, monsieur, la divine artiste à qui nous devons la danse lumineuse. » En inclinant aimablement la tête, salua Miss Sarah Skipton, et enfin M. Hardwick présenta une jeune fille qui semblait la grâce même, avec ses cheveux d'un blond délicat et ses yeux bleus qui étaient un sourire. Miss Sarah Skipton est, pourrait-on dire, l'étoile de notre troupe. Miss Circe Nightingale en est la perle, monsieur. C'est la douce charmeuse des oiseaux, et vous la prendrez pour quelqu'une de vos déesses quand vous la verrez parmi son cortège de fauvettes et de rossignols. Miss Circe Nightingale sourit gracieusement à Mukunji et de sa jolie main me caressa longuement, et je la remerciai amicalement déjà. En somme, à part M. Great Horse, Mrs. Great Horse, le jeune Great Horse et aussi Mrs. Pound, tous ces gens paraissaient plutôt agréables, et il ne me sembla pas qu'il dût être trop pénible de vivre avec eux. Et même, pour 4 des jeunes femmes qui étaient de la troupe, je me sentis dès lors de la sympathie. L'élégance de Miss Clary Morley me charmait. Sans doute Miss Morley était douce aux animaux, et ce ne devait pas être avec des coups qu'elle dressait les chevaux. Pour Miss Annie Great Horse, j'éprouvais de la pitié, je comprenais qu'on la maltraitait, qu'elle était malheureuse, et je pensais déjà que je pourrais peut-être la protéger. J'admirais l'éclatante beauté de Miss Sarah Skipton, et la grâce enchanteresse de Miss Circe Nightingale me séduisait. Et je me disais, ici je me ferai 4 amis, et j'aurai 4 ennemis. Quand toute la troupe eut été présentée, M. John Hardwick dit à Mukunji, « C'est ce soir que pour la première fois nous jouons à Calcutta, et je voudrais le plus tôt possible présenter votre éléphant au public. D'abord, quel est son nom ?» Comme un jour de détresse il vint me trouver, je ne sais d'où et comme il m'apporta de la consolation, je l'appelle Devadatta, ce qui dans notre langue signifie « donné par les dieux ». C'est bien, sur nos affiches, nous l'appellerons donc le fameux éléphant Devadatta. Mais dites-moi, ne représentez-vous pas un de vos dieux avec une tête d'éléphant ? Le divin Ganesa, dieu de la sagesse, a la tête d'un éléphant. Parfait, s'écria M. Hardwick. Le fameux éléphant Devadatta, frère de Ganesa, dans ses divers exercices. Voilà ce que portera notre affiche. Ne sera-ce pas bien, M. Oldham ? Ce sera très beau, dit M. Oldham. Maintenant, reprit M. Hardwick, il faut voir quels exercices nous lui enseignerons. « C'est vous, monsieur Oldham, qui l'avez découvert, c'est vous que je charge de son éducation. »« Vous m'honorez, monsieur Hardwick, elle sera promptement terminée. D'abord, je veux lui faire répéter, devant vous, le jeu auquel il se divertissait sur le port. » Monsieur Oldham fit apporter un anneau de fer. Je compris qu'il fallait jouer avec comme j'avais joué sur le port. Monsieur John Hardwick fut satisfait de cette épreuve. « C'est très bien, » dit-il. « Il faudrait qu'il jouât avec plusieurs anneaux à la fois et ce serait parfait. » Dès demain, il pourra débuter. On apporta plusieurs anneaux, tous, successivement, je les lançais en l'air et les recevais au bout de ma trompe. Je n'en manquais pas un et M. Hardwick était ravi. Chapitre 27. Mes débuts. Aussi, dès le lendemain, lisait-on sur l'affiche du grand cirque des deux mondes le fameux Devadatta, frère de Ganesa, éléphant jongleur. Le soir, quand la représentation commença, j'étais peu émue, mais j'étais assez humiliée. Que dirait Parvati si elle me voyait, pensais-je. Je vais divertir la foule par de vils exercices, et si j'ai le malheur de laisser échapper un anneau, peut-être serais-je battue. Monsieur Oldham m'a l'air assez bienveillant, mais Monsieur Great Horse me traiterait peut-être fort mal, ou tout au moins me menacerait comme il menace les chevaux qui tournent en ce moment autour de la piste. Pour ouvrir la représentation, en effet, il y avait un exercice équestre par messieurs Crampton, Hampton et Mapton. Il s'agissait de faire sauter aux chevaux divers obstacles, et près de la porte, je pouvais voir assez bien. Monsieur Greathorse, debout au milieu du cirque, un fouet énorme à la main, cinglait l'air de grands coups pour exciter les pauvres bêtes, et quand l'une d'elles, malgré le bruit du fouet, malgré les efforts de son cavalier, faisait mine de regimber devant un obstacle, il la menaçait avec le manche du fouet, et je voyais qu'il eût été joyeux de passer de la menace à l'acte. Après messieurs Crampton, Hampton et Mapton, paraissaient les sœurs Ulverstone. Mais tandis qu'on préparait leur barre fixe, trois singuliers personnages se précipitèrent dans le cirque, l'un faisant la roue, l'autre marchant sur les mains, le troisième se désarticulant en une série de culbutes. Ils étaient vêtus d'un vêtement très ample, d'une seule pièce, bariolé de dessins bizarres. Ainsi, l'un avait un soleil au milieu du dos et sur la poitrine. Sur l'autre s'étalait un crapaud fantastique. Tous trois s'étaient enfarinés le visage et portaient une perruque de filasse blanche ou rouge, avec une longue mèche au sommet de la tête. Ils divertissaient le public par mille facéties extravagantes. Ils échangeaient de grands soufflets, se jetaient par terre l'un l'autre, se relevaient brusquement. Ils feignaient d'aider les serviteurs qui tendaient les cordes destinées à fixer la barre et sans cesse tombaient dans des plus grotesques positions. Et le public riait bien haut de leur folie. J'examinai avec soin ces trois personnages et, sous la farine, je finis par retrouver les traits de M. Oldham et ceux de messieurs Trick et Troc. J'en restai tout surpris et je fus un peu choqué d'avoir pour précepteur un gentleman qui manquait à ce point de dignité. Et entre chaque numéro du programme, M. Oldham, messieurs Trick et Troc commençaient leurs plaisanteries. La représentation se continuait fort bien. Les éloges que M. Hardwick avait décernés à ses compagnons, en nous les présentant, me semblaient mérités. Les frères Smith étaient d'une agilité merveilleuse. Si Mrs. Greathorse semblait désagréable à vivre, c'était une adroite équilibriste. Et Miss Alice Jewell était sur la corde raide, d'une grande dextérité. Les écuyers et les écuyères montaient habilement, et je fus ravie par les gracieux mouvements qu'avait à cheval Miss Clara Morley. Elle ne frappait pas son cheval, elle ne l'excitait que par des paroles amicales. Seule la pauvre Annie Greathorse me fit souffrir. Je la sentais si mal à l'aise sur son trapèze. C'était après elle que devait paraître le fameux Devadatta. Et je parus. Mon succès fut grand, on m'applaudit. Quand je rentrai, on me caressa, et pourtant, je n'étais pas joyeux. La moindre caresse de Parvati m'eût été plus douce. Dans la représentation, la fin me charma plus que tout le reste. On terminait en effet par les oiseaux de Miss Circe Nightingale et par la danse lumineuse de Miss Sarah Skipton. On amenait au milieu du cirque une volière pleine d'oiseaux divers qui chantaient harmonieusement. Puis parut Miss Circe, charmante, en une robe claire azur et avec autour de la taille une ceinture d'argent. Un peigne d'argent retenait ses fins cheveux blonds et les parait d'un éclat atténué. À la main, elle tenait une flûte d'argent. Elle vint à la volière, elle en ouvrit la porte, et les oiseaux s'échappèrent, voltigeant gaiement autour d'elle, et parfois se posant sur son épaule. Elle leur souriait en amie, et à un geste qu'elle fit, tous s'envolèrent vers le plafond du cirque. Alors elle joua de la flûte, et les oiseaux lui répondaient, et l'on ne savait plus si son chant n'était pas le chant d'un oiseau. Elle pressa le rythme de l'air, et les oiseaux redescendirent vers elle, et ils volaient autour de sa tête, et semblaient la couronner d'une vivante couronne. Sans cesse, elle changeait le rythme de la chanson, et les oiseaux familiers formaient de nouvelles figures, toutes gracieuses. Et l'on eût pris la douce charmeuse d'oiseau pour quelque reine du ciel. Et quand la flûte se tut, les gais amis de Miss Circe rentrèrent dans la volière, et ravis, les spectateurs applaudirent, unanimes. Où était la volière, on amena une assez grande estrade. Là monta Miss Sarah Skipton, vêtue d'une ample robe blanche, d'étoffe légère, aux plis nombreux, et ses beaux cheveux flottaient sur ses épaules. Puis on éteignit les lustres. Seules quatre lanternes, restèrent allumées, qui dardaient leurs rayons sur l'estrade, entourant Miss Sarah d'une gloire lumineuse. Devant les lampes, on faisait passer des verres de couleur. Et parmi les lumières, changeantes sans cesse, Sarah dansait. Elle dansait, légère et vive, ou lente et languissante. Et sa robe, rouge, verte, jaune, violette alternativement, ou encore de plusieurs couleurs à la fois, tourbillonnait autour d'elle. Et la femme devenait fleur, papillon, oiseau. Elle était l'aurore, elle était le crépuscule. Elle était l'orage aux mille éclairs. Elle était la mer souriante au matin. Elle était les pierres précieuses, elle était le soleil victorieux. Et soudain, les lustres se rallumèrent et tous acclamaient Sarah triomphante. La représentation était finie. Modestement, je rentrai à l'écurie, ébloui encore de la danse lumineuse. Chapitre 28. Saltimbanque. Bientôt, sur l'affiche du grand cirque des deux mondes, on put lire « Le fameux Devadatta, l'éléphant unique, frère du divin Ganesa, dans ses divers exercices. » Monsieur Oldham, en effet, s'était acquitté fort bien et fort vite de mon éducation, et je ne charmais plus seulement le public en jonglant avec des anneaux de fer. À chaque représentation, toujours dans le même ordre, se succédaient mes exercices. Quand je fus tout à fait instruit, voici ce que je faisais. D'abord, je jonglais avec des anneaux de fer. Puis on dressait une cible, je me plaçais en face. J'avais à côté de moi une corbeille, pleine de balles. Avec ma trompe, je lançais les balles contre la cible, et je ne crois pas l'avoir jamais manqué. La cible enlevée, on m'apportait une grosse boule de fer. Je m'y tenais en équilibre, et la faisais marcher avec mes quatre pieds. Cet exercice me fatiguait fort. Aussi, pour me reposer, me faisait-on jouer une scène dramatique. Un jeune roi et une jeune reine erraient par la campagne gaiement. Tout à coup, l'on entendait des bruits de chasse, et je paraissais, poursuivi par quelques cavaliers. Effrayés, le jeune roi et la jeune reine cherchaient à se cacher. Je faisais, semblant être furieux, deux ou trois fois le tour du cirque. Puis j'avisais la reine, je me précipitais vers elle. Alors, dans la scène, telle que l'avait d'abord composée Mukunji, car mon maître était, pour me faire briller, devenu auteur, le roi devait la protéger de son corps. Il dégainait son sabre, me l'enfonçait dans le poitrail, et je tombais, simulant la mort. Le sabre, bien entendu, était une arme en fer blanc et moussé, dont la lame entrait dans la poignée. Mais ce dénouement fut changé, et par moi, dès le premier soir où l'on donna la scène. C'était Miss Nightingale qui jouait la jeune reine. Elle était charmante dans ce rôle, avec une robe de gaze blanche, sous laquelle transparaissait une tunique de soie mauve. Et quand je la vis si gracieuse, le souvenir de Parvati, qui ne me quittait guère, me revint plus vif et plus cher que jamais. Alors, au lieu de courir violemment vers elle, je m'arrêtais, je m'avançais lentement et, l'air humble et soumis, j'allais m'agenouiller devant elle. Le public applaudit longuement, et l'on décida qu'on garderait ce dénouement à la scène désormais. C'était après cela que je faisais cinq fois le tour du cirque en bicyclette. Une bicyclette énorme construite à ma taille. On s'imagine avec quelle peine un éléphant peut se tenir sur un pareil instrument. Je faisais mouvoir les pédales avec mes pieds de devant et le guidon avec ma trompe. Je devais ensuite me tenir debout et danser une polka. Enfin, pour terminer mes exercices, je jouais une autre scène, comique celle-là, et qu'avait composée M. Oldham. Au milieu du cirque, on m'apportait une table avec une chaise à ma taille, et auprès, entre deux poteaux, une cloche à laquelle pendait une corde. J'entrais, je m'asseyais sur la chaise, et de ma trompe, je tirais la corde de la cloche. Monsieur Oldham, vêtu en garçon de restaurant, accourait, et je lui faisais comprendre que je voulais dîner. « On vous sert, monsieur éléphant, » disait-il. Il sortait. D'un sac qu'on m'avait attaché au rein, je tirais toujours avec ma trompe une paire d'énormes lunettes. Je les assurais devant mes yeux, puis je prenais un journal et faisais comme si je lisais. Alors je ne savais pas encore vraiment lire. Peu à peu, monsieur Oldham ne revenant pas, je simulais l'impatience. De nouveau, je sonnais, et monsieur Oldham accourait. « On vous sert, monsieur éléphant !» Il disparaissait. Deux fois encore, je sonnais, et deux fois, monsieur Oldham me criait. « On vous sert, monsieur éléphant !» Sans jamais rien m'apporter. La troisième fois, enfin, il me servait un plat. C'était quelques pains, et je les avais rapidement engloutis. Je sonnais, monsieur Oldham venait, et je lui marquais que je voulais un second plat. Au bout d'un long temps, il m'apportait des légumes qui étaient aussi vite mangés que les pains. Je demandais un troisième plat, et cette fois j'avais des fruits, des gâteaux et une bouteille de champagne, dont je faisais bruyamment sauter le bouchon. Pour la dernière fois, je sonnais, et je faisais signe que je voulais la note. Sans tarder, maintenant, M. Oldham m'apportait un long morceau de papier. Je remettais mes lunettes, je les avais ôtées pour manger, je regardais le papier et je poussais un sonore grognement d'indignation. Monsieur Oldham tombait, comme de peur, et par une culbute se relevait, et il criait. « Qu'est-ce que vous avez, monsieur éléphant ?» Je témoignais de mon mécontentement, en me levant et en piétinant la note. « Vous la trouvez trop élevée ?» Je faisais signe que oui. « Vous allez pourtant me payer ?» Je faisais signe que non. « Ah, vous ne voulez pas me payer ?» Toujours non de ma part. « Eh bien, monsieur éléphant, nous allons voir. » Et très haut, il appelait. « Eh, eh, là-bas, messieurs policemen !» Alors entraient messieurs Trick et Troc, vêtus en policemen. « Messieurs policemen, disait monsieur Oldham, voici monsieur éléphant qui ne veut pas me payer. » « C'est bien !» cria M. Trick. « En prison, M. éléphant !»« En prison !» répétait M. Troc. À cette menace, l'air confus, je tirai de mon sac des morceaux de papier, simulant des banquenotes, et je m'en allai, tandis que M. Oldham et M. Trick et Troc se réjouissaient par une danse extravagante. Cette scène amusait fort le public, qui chaque soir me rappelait au moins 3 fois. Mais moi, je me sentais humiliée de jouer un rôle comique, de faire presque le clown. Je vécus ainsi plusieurs années. Quand dans une ville les recettes baissaient, M. Hardwick me transportait dans une autre. De Calcutta, nous allâmes à Chandernagore, de Chandernagore à Patna, et je vis Bénarès, Allahabad, Delhi, que sais-je encore. J'aurais pu ne pas être très malheureux, j'avais su me faire respecter de ceux qui tout d'abord avaient essayé de me taquiner. M. Oldham était fier de son élève et l'aimait. Mukunji était toujours le brave homme qui m'avait recueilli, et mes 4 amis, Annie, que je protégeais souvent contre les brutalités de sa mère, Circe Nightingale, Sarah Skipton et Clary Morley, étaient pleines de prévenances pour moi, et me gâtaient sans cesse. Mais hélas, je songeais à ma belle vie d'autrefois, si calme et si joyeuse, et je songeais à Parvati, qui souffrait peut-être, et que j'aurais pu défendre. M'avait-elle oubliée? Ou si elle pensait à moi, ne m'accusait-elle pas d'ingratitude? Et n'avais-je pas en effet été un ingrat de la quitter ainsi, bassement jaloux? Aussi, malgré les soins dont on m'entourait, j'étais toujours bien triste. Chapitre 29. Retour au paradis. Un jour, le grand cirque des deux mondes arriva à Bombay. J'étais ce jour-là à bout de courage, écrasé de honte. Moi, le roi magnanime, devant qui tout un peuple s'était prosterné, moi, le guerrier farouche qui avait versé tant de sang et demi, rendu le trône à un prince, était le compagnon aimé de la plus belle des princesses, j'en étais réduit à me montrer dans de grotesques parades pour étonner et divertir les foules. Ah, combien la vie m'était lourde, comme je me sentais seule au milieu de mes nouveaux compagnons, malgré leur bienveillance pour moi. Puisque sans doute je ne devais jamais revoir Parvati, retrouver le paradis perdu, à quoi bon prolonger le supplice? J'étais décidée à m'enfuir de nouveau, à chercher dans les forêts solitaires le cimetière des éléphants, et là, à me laisser mourir de faim, au milieu des ossements blanchis de mes pareils. Oui, cette représentation serait la dernière. Quand tous dormiraient, je quitterais mon abri de planches, je traverserais à la nage les 3 canals qui séparent l'île de Bombay du continent, et j'irais chercher le lieu de repos où toutes mes peines mourraient avec moi. J'étais si préoccupée par la détermination que je venais de prendre et par les réflexions que m'inspirait mon chagrin que je fis à peine attention à l'agitation extraordinaire qui ce soir-là régnait parmi les artistes du grand cirque des deux mondes. On rafraîchissait les costumes, on astiquait les accessoires, on répétait les tours, sus depuis longtemps, avec une ardeur peu commune, on cousait même en toute hâte une frange d'or à des draperies de velours rouge, pour un usage que je ne pus deviner. La représentation commença beaucoup plus tard que de coutume. On la retarda autant que cela fut possible, malgré les trépignements d'impatience du public. Lorsque je m'avançais sur la piste, je vis, juste en face de l'entrée, un grand espace séparé des places ordinaires par des cloisons peintes en rouge. Le devant de cette loge improvisée était orné de draperies frangées d'or, d'écussons aux armes d'Angleterre et de guirlandes de fleurs. Des fauteuils étaient disposés dans la loge. Je compris que l'on attendait quelques personnages illustres, mais ils ne viendraient pas sans doute car la loge était vide encore et faisait un grand trou sombre au milieu des autres places qu'emplissait une foule compacte aux toilettes claires et brillantes. Monsieur Oldham, en soupirant, me fit faire mes exercices et j'en étais au travail d'équilibre sur la sphère roulante quand un mouvement général du public, qui ne me regardait plus, me fit comprendre que l'illustre personnage venait d'entrer. Très attentif à ne pas perdre l'équilibre, je ne pouvais lever la tête pour regarder. C'est peut-être le président de Bombay, pensais-je, et je ne tiens guère à le voir. Mais tout à coup, la sphère s'échappa d'entre mes pieds. Perdant l'équilibre, je tombai à genoux. Une voix de femme venait de crier. « Iravata !» Qui donc pouvait crier ainsi mon nom d'autrefois, mon nom de bonheur, et cette voix harmonieuse et claire qui était entrée en moi comme une épée, m'avait jetée à genoux en précipitant tout mon sang au cœur. Ce ne pouvait être que sa voix à elle. J'en étais certain, et cependant je n'osais regarder, il me semblait que je serais mort d'une déception. Le public, surpris et respectueux, gardait un profond silence. La voix, un peu attristée cette fois, se fit entendre encore. « M'as-tu donc oublié tout à fait, Iravata ?» D'un bond, Je fus debout devant la loge qui était juste à ma hauteur et à travers mes larmes de joie, je voyais Parvati comme dans des flammes. Elle me caressait, m'embrassait sans s'inquiéter de toute cette salle qui la regardait. Et moi, ce que j'éprouvais, un être humain ne pourrait pas l'exprimer. Et j'étais plus honteux que jamais des cris rauques, des piétinements sur place qui étaient mes seuls moyens de manifester un bonheur qui m'étouffait. Méchant, méchant, me disait-elle à demi-voix, tout près de mon oreille. Tu as pu me fuir ainsi, m'abandonner dans un moment si grave de ma vie. J'ai bien vu que tu ne donnais pas ton consentement à ce mariage. Tu lisais dans l'âme du prince, sans doute, car cette âme ne te plaisait pas. Certes, ta sagesse voyait juste, mais tu aurais dû, comme moi, te résigner et te soumettre au destin, au lieu de me quitter comme un ingrat, comme un jaloux. Car tu étais jaloux, et j'ai lu la mort du prince dans tes yeux. Si c'est pour éviter un crime que tu t'es enfui de Golconde, je te pardonne, malgré le chagrin que tu m'as causé. Tu peux maintenant revenir avec moi, ajouta-t-elle, je suis veuve. Certes, ce que je fis en entendant cette bienheureuse parole n'était pas convenable. On m'a appris qu'il ne faut se réjouir de la mort de personne. Mais je ne pus me contenir. Je poussai des coups de trompette tellement vigoureux que presque tous les assistants s'enfuirent épouvantés. Et je fis trois fois le tour de la piste, au grand trot. Le prince Alemguir et Saphir du Ciel étaient aussi dans la loge. Je ne les avais pas vus tout d'abord, aveuglé que j'étais de larmes et d'émotion. Ils avaient appelé auprès d'eux le directeur du grand cirque des deux mondes, et je compris tout de suite que l'on traitait avec lui de ma rançon. Il se montra à la fois digne et humble devant le roi et la reine de Golconde, et avec beaucoup de loyauté, il déclara que je ne lui appartenais pas, que j'étais seulement engagé dans la troupe, avec mon maître actuel, et que d'ailleurs, j'avais fait affluer tant de roupies dans la caisse de l'association qu'il me devait de la reconnaissance, tandis que je ne lui devais rien. Ce fut donc à titre de largesse qu'il accepta, après s'être beaucoup défendu, le magnifique diamant que le roi lui offrait et la somme importante qui devait être distribuée à tous les acteurs de la troupe. Mukunji s'était approché et je fis comprendre à Parvati que je désirais ne pas l'abandonner. Il se tenait le mieux qu'il pouvait, on ne s'aperçut pas qu'il était ivre, et il fut convenu qu'on l'emmènerait à Golconde. Tous les artistes, dans leurs costumes de spectacle, étaient réunis sur la piste. Je fis mes adieux, le plus affectueusement que je le pus. Mais il me semblait déjà loin, loin de moi, comme oublié, enveloppé de brouillard et de nuit. J'avais retrouvé ma lumière, ma joie, ma vie. Je ne voyais plus que cela, et tandis que les bouchons de champagne sautaient et que les verres se choquaient en mon honneur, ce fut comme dans un rêve que je quittais pour toujours le cirque des deux mondes, absorbé que j'étais dans l'immense bonheur de sentir de nouveau sur mon dos le poids léger de mon adorée princesse, enfin reconquise.